avec sa volonté d'aimer Akadosh Baruch Hu. Donc Bat Hashem, c'est un message intéressant qu'il a à nous livrer, et donc tout de suite Bat Hashem, je laisse la parole.
Bonjour à tous. Je me présente en, très rapidement. Donc je m'appelle Jérémy Bérébi, j'habite de Nebrak avec ma famille. J'habite de Nebrak depuis 8 ans maintenant. J'ai fait mon alia en Israël en 2004. J'ai d'abord fait mon alia à Ranana et très très vite bougé à Nebrak. Donc moi je suis un enfant des écoles juives de France. J'ai étudié à Or Yosef dans le 19e. En fin de parcours, j'ai fait un détour à Maïmonide qui a été un grand choc culturel. Et en fait, j'ai été quelqu'un qui a découvert, j'étais un des tout premiers à découvrir le monde de l'Internet en 1994, donc il y a très très longtemps, il y a 23 ans maintenant, et qui a fait de moi en fait finalement ce qu'on appelle un des pionniers de ce monde-là, de ce monde qui est très complexe, dont on peut parler, mais ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui. J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans en tant que journaliste. À 19 ans, j'ai fondé ma première société. À l'âge de 18 ans, en quittant l'école, j'ai eu une vraie déconnexion finalement du monde juif dans lequel je vivais. Déjà, en allant en Maïmonide, malheureusement, ce n'était pas très ce qu'il fallait. Mais en tout cas, voilà, j'ai été projeté dans le monde des affaires, qui a l'air en permanence rude pour un juif. Et j'ai eu la chance, en fait, à l'âge de 18 ans, alors que j'étais encore en terminale, de rencontrer un homme, quelqu'un qui s'appelle Jean Guetta, qui a été un homme qui est d'ailleurs cachot un peu à la communauté d'ici, il y a plusieurs années, qui vit à Londres aujourd'hui, qui est à Yerushalayim maintenant, et qui a été un homme d'affaires, un peu comme beaucoup d'entre vous, qui a été à la fois, effectivement, quelqu'un qui étudiait, quelqu'un qui vivait dans le monde des affaires. Donc moi qui pensais que le monde des affaires était complètement opposé au monde de la Torah, finalement j'ai vu quelqu'un qui arrivait à jongler avec et qui me donnait des cochotes infinies. Donc je suis rentré dans le monde des affaires et je suis... le monde des affaires c'est quoi? C'est tout simplement travailler comme beaucoup d'entre vous. Au début j'étais salarié, à 19 ans j'ai fondé ma première société. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai toujours été très macpide sur... le fait d'être Shomer Mitzvot à 100%, enfin tout ce que je connaissais à l'époque, et à vouloir effectivement toujours me dire que l'épreuve sur la vie, ce que je suis en train de mener finalement, c'est comme un énorme jeu vidéo, un énorme jeu où en fait Hachem nous met en permanence des petites épreuves dans notre vie et veut voir si on va les traverser ou pas. Et ces épreuves, elles peuvent apparaître au Beit HaKnesset quand notre copain nous parle derrière et on va se commencer à discuter avec lui. Peut arriver dans le monde des affaires où on a l'occasion de mentir, de tricher et se dire business is business. De toute façon, le monde des affaires, on est obligé de tricher, c'est comme ça. C'est healthcare. Finalement, je me suis rendu compte que la vie avait une importance uniquement par le fait d'arriver à être Shomer Mitzvot dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel environnement et avec n'importe quel type de personne autour de nous, juif ou non juif. Donc j'ai fondé ma société, ma première société quand j'avais 19 ans. La société a eu beaucoup d'investissements dedans, donc à un moment je dirigeais 40 personnes à 21 ans. Et à ce moment-là, j'étais très connu, je passais dans toutes les chaînes de télévision. À l'époque, je ne portais pas de kippa sur la tête. Personnellement, en fait, je pense que je ne savais même pas qu'il y avait une importance d'apporter une kippa à l'extérieur, se couvrir la tête. Je passais sur toutes les chaînes de télévision, voilà, un pionnier de l'Internet, le jeune garçon, etc., le Bill Gates, etc. Bon, ils ont été très loin parce que ce n'est pas parce qu'on a des gens qui financent notre société qu'on est riche ou quoi que ce soit. C'est tout du papier et la valeur de ça n'a pas valu grand-chose après d'ailleurs. Là, je me suis retrouvé donc à des épreuves super intéressantes où, par exemple, un jour, je me fais contacter par... j'avais une assistante qui se fait contacter par le chef de cabinet du ministre de l'Industrie suédois. Et le ministre de l'Industrie de Suède dit « Voilà, on veut inviter M. Bérébi à dîner avec les 12 ministres de l'Industrie européens. » Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Donc, c'est à Bruxelles, 12 ministres de l'Industrie européens. On invite 3 entrepreneurs d'Europe, dont M. Bérébi. Et moi, je suis comme ça, je dis, allez, j'ai mon assistant, dis-leur que je peux pas, je mange cachère, ça va être compliqué, et je me vois pas être là à les regarder autour de la table. Je dis ça, et la personne en face dit, mais non, aucun problème. Quel est votre numéro de fax? Je sais pas si vous vous rappelez le fax, vous vous rappelez de quoi ça? Quel est votre numéro de fax? Donc on donne le numéro de fax, et on m'envoie par fax la liste de tous les Hercherim d'Europe. Tous les Hercherim d'Europe, et on me dit, choisissez ce que vous voulez. Et il y avait Strasbourg à côté, donc j'ai choisi Hercher de là-bas. Et donc, comment vous pouvez refuser à ce moment-là? Vous avez essayé de trouver une femme pour ne pas faire ce rendez-vous. Personnellement, j'étais très très proche des présidents, des ministres, etc. C'était vraiment le début de l'Internet, donc tous les gens, tous les hommes politiques essayaient de s'approprier, en fait, les gens comme moi qui étaient déjà dans le move, comme on dit. Et donc, personnellement, j'étais pas spécialement intéressé à faire ce dîner, mais bon, là, ils m'ont fait noter ma travail aussi, quoi. Qu'est-ce que vous voulez plus? Ils m'envoient chérie, ils me disent voilà. Donc, ils m'envoient billet d'avion, j'arrive là-bas, j'arrive à Bruxelles, chambre d'hôtel, une suite énorme. Et là, on tape à ma porte, monsieur Bérébi, le dîner va commencer, pas de problème. Donc, j'ai un chauffeur, évidemment, qui m'amène jusqu'à Bruxelles. J'arrive dans une immense salle. Donc, la salle, elle faisait deux fois cette salle. D'accord? Je ne sais pas si vous avez imaginé la taille. Avec tout autour, il y avait ce qu'on appelait des aquariums. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des bocaux comme ça où il y avait des traducteurs qui étaient là en haut. Donc en fait, parce que les ministres parlent tous leur langue. Ils ne veulent pas parler anglais. Donc chacun par ego parle sa langue, même quand ils parlent tous entre eux. Je ne sais pas si ça a changé depuis. Ça fait maintenant 17 ans. Et donc, je me retrouve à arriver là-bas. Je me retrouve sur place et je m'assois. Et là, vous avez des serveurs qui me regardent comme ça et qui me regardent comme ça, genre ça doit être lui qui doit manger cachet, etc. On peut vous ouvrir le plat? Non, touchez à rien. Vous êtes sûr, on ne peut pas vous ouvrir le plat? Non, touchez à rien, vous m'amenez comme ça, etc. Vous allez voir, c'est un peu dur à ouvrir. Non, merci, ouvrez-le-moi. Ne me l'ouvrez pas. Et surtout, ce qu'ils font, c'est que donc, tous les ministres s'assoient. Avec chacun, avec son chef de cabinet. Chef de cabinet, c'est genre secrétaire de haut niveau qui gère les affaires importantes du ministre. Et donc moi et deux autres entrepreneurs. Et les serveurs m'amènent en premier mon repas. Donc on m'amène mon repas en premier. Déjà, je mange cachère. En plus, on me l'amène en premier. Puis là, et bon, moi j'attends un tout petit peu, je dis rien, etc. Ils servent tout le monde. Et là, il faut. Alors, je sais pas si vous voyez dans les avions le plastique qui est autour des plaques à faire. Je sais pas comment ils ont inventé ce truc, mais c'est super fort. Et le couteau est dedans. Donc en fait, vous pouvez pas utiliser le couteau pour le planter. Donc là, j'essaye d'ouvrir et je fais un bruit. Il y avait un écho dans la salle énorme. Et je fais un bruit comme ça, je suis comme ça. Il y a tous les ministres qui me regardent. Eux n'étaient pas au courant. Il y en avait qu'un seul qui était au courant. Et là, il y a, face de moi, il y a une femme, ministre suédoise ou finlandaise. Non, je pense que c'est finlandais. Qui me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors je lui dis, je mange cachère. Elle fait comme ça, moi aussi je devrais. Et en fait, il s'avérait que cette femme était juive et qu'elle m'a vu faire ça devant elle. Et ça, personnellement, en fait, quand j'ai vécu cette affaire-là, je voyais les étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais en train de vivre ma vie de juif au milieu de, on va pas dire de SA, parce que de la civilisation, la grande civilisation, et d'arriver effectivement à faire ce que j'avais à faire à ce moment-là. À ce moment-là, je devais manger cachem. Baruch HaShem, ce rendez-vous s'est extrêmement bien passé, à part cette petite parenthèse au tout début. Le rendez-vous s'est très très bien passé. On a parlé de plein de trucs qui ne servent à rien, comme tous les hommes politiques. Et après, moi, finalement, je suis rentré faire mission. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, donc j'avais ça, mais en fait j'avais un manque de limoude. J'étudiais un tout petit peu, on organisait des cours dans nos bureaux avec des étudiants, mais c'était pas suffisant. Et surtout qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de gens vivent leur vie et courir dans le monde des affaires et avoir une passion pour le monde des affaires. Alors qu'en fait, le monde d'affaires, c'est 90% de problèmes, non, 95% de problèmes, 5% de bonnes nouvelles. D'accord? C'est en permanence des problèmes. Et moi, en fait, j'étais là, j'étais en 2000, j'avais tous les gens étaient en train de dire le Bill Gates, le C, etc., mais j'étais pas bien. Je me sentais pas bien à ce moment-là. Et en fait, je me sentais pas bien. Pourquoi je me sentais pas bien? C'est que finalement, j'étais en train de me dire, je me vois pas toute ma vie, finalement, ça va être ça, ma vie. Ça veut dire être là, avoir des employés, avoir des sociétés, aller faire de la promotion, aller être commercial avec sa petite manette. Et voilà, je sentais qu'il manquait quelque chose de un sens à tout ça, finalement. Et très vite, c'était à 21 ans, comme ça, j'étais déjà choqué par, finalement, le monde des affaires qui était dur, qui était avec énormément de triches, énormément de beaucoup de choses. Et beaucoup de choses négatives. Et donc, finalement, à ce moment-là, j'ai décidé d'étudier. Et là, j'ai fait le juif errant. Donc, j'ai fait le juif errant, c'était quoi? J'allais de synagogue en synagogue à chercher mon rav. Donc j'ai fait, je vais pas citer de nom, parce que comme ça vous allez comprendre ce que j'ai pas accepté hein, comme race. Mais en tout cas voilà, j'ai fait le juif errant. C'est-à-dire que vraiment, j'allais à des shiurim, je posais une question au rav, il me disait c'est une bonne question, je lui reposais une autre question, il me disait c'est une bonne question, je posais une autre question, il me disait c'est une bonne question, il y avait aucune réponse. Il y avait ça. Après je vais dans une autre shiur où je me retrouve qu'avec des vieux. J'avais l'impression que c'était une maison de retraite, etc., etc. Et voilà, j'ai vraiment tourné un peu partout à essayer de trouver finalement ma place dans ce monde et d'essayer de trouver en fait les gens qui allaient pouvoir me faire avancer. Et finalement, en fait, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Daniel Gabizon, que vous connaissez, qui a été un grand déclencheur, lui et une autre personne. Qui a été un grand déclencheur à un moment, qui sont devenus les gens avec qui j'ai commencé à étudier. On a ouvert à Oberkamp, enfin à Beth Amidrash. Donc moi j'habitais boulevard Beaumarchais. Quand je me suis marié en 2002, je me suis marié et j'habitais boulevard Beaumarchais. Et j'allais au Beth Amidrash étudier tous les matins. Voilà, comme vous, d'après ce que je comprends. Et là, voilà, et en fait, finalement, plus j'étudie, plus je me rends compte que ce que je pensais être. La réalité de ma vie qui est de dire moi voilà je dois être juif à tout moment parce que là je vous ai donné une expérience qu'avec les ministres mais c'était tous les jours les expériences et quand je me retrouve j'étais dans une société de 200 personnes quand j'avais 19 ans je me retrouvais dans une société de 200 personnes j'étais le plus jeune employé au monde de la société quand ils m'ont accueilli il y avait un biberon sur la table je sais pas si vous voyez le comité d'accueil et voilà je devais manger kasher. Je vais manger kasher. Pour moi, c'était, il y avait même pas de safek dans ma tête que est-ce qu'on peut manger des salades avec des trucs. Enfin, c'était même pas dans ma tête ce genre de choses. Et donc, au départ, je dis à mes collègues, je dis, vous voulez venir manger avec moi? Je dois manger au resto d'à côté. Ah, bah pas de problème. Paf. Alors j'amène mes amis. Après, je vois mes amis qui vont sans moi, qui vont au resto kasher sans moi. Après, qui amènent leurs copains. Le truc. Et au final, le resto kasher, ça faisait partie du ami non juif. Le resto kasher faisait partie de finalement l'environnement. Ce qui se passe très très souvent dans le monde des entreprises, et je parle avec beaucoup beaucoup de jeunes comme ça, c'est qu'on a honte d'être juif. On a honte de notre judaïsme. On a très très honte de manger kasher. On a très très honte de quitter plus tôt le Shabbat. On a très très honte de devoir être absent pendant les fêtes. On a très très honte. On a très peur de la réaction de l'autre, etc. Et en fait, très très souvent, quand on arrive en fait la tête basse dans une entreprise, en pensant que son judaïsme est un boulet, au lieu que se dire que son judaïsme est une médaille, à ce moment-là, on rate. Très très souvent, on rate. On rate la relation. Les gens nous voient mal. Très très souvent, ils nous voient en disant, mais ah, ce garçon, il est juif parce qu'il veut quitter plus tôt le vendredi. Ça lui fait plus d'heures. Ce garçon est juif parce qu'en fait, il n'a pas envie de manger avec nous. Il a envie de rester seul. C'est du racisme, etc. Mais si finalement, ils voient que le judaïsme, c'est quelque chose qui amène des valeurs, qui amène des choses un peu plus, qui voit la rigueur, par exemple, dans le mensonge, dans la parole des juifs, qui voit la manière dont on parle et dont on peut faire, dont on peut ne pas faire du lashon hara, ou des choses comme ça, ils se rendent compte que finalement, le judaïsme, c'est pas un folklore, c'est quelque chose qui est finalement quelque chose qui est partie intégrante d'une vie qui est en fait un grand ensemble de valeurs. Et je peux vous dire que quand j'avais ma société c'était en 2000-2001 cette expérience, un jour on a déménagé, on a changé de bureau. On change de bureau, et le soir même que les bureaux sont prêts, on fait pose des mezouzot. Et là j'ai une femme qui rentre dans le bureau, c'était ma directrice financière, qui arrive et qui n'est pas juive, et qui me dit « Ah, c'est sympa, j'ai appris que ça portait bonheur, c'est comme ça qu'on fait ?» Et elle embrassait la mezouza. Alors, très bien, et les gens disaient « Ah, c'est beau et tout », c'est-à-dire que beaucoup de non-juifs comme ça disaient « C'est beau ». Il y en a un qui arrive en disant « Ah, déjà nos bureaux sont rue du Sentier », bon, c'était comme ça à l'époque, c'était le lieu des startups, « Déjà nos bureaux sont rue du Sentier », En plus, tu mets des comme ça, des bâtons super voyants. Jérémy, tu trouves pas que tu exagères? Ce monsieur n'était pas juif. Enfin, je le pensais. Et ce monsieur-là, finalement, avec le temps, il commence, c'était mon directeur technique à l'époque, et il commence à me faire sous-traiter des choses à des entreprises, etc. Je commence à devenir proche des gens avec qui je travaille via son intermédiaire, etc. Et un jour, l'un d'entre eux m'appelle, disant « Jérémy, je dors pas de la nuit, je pleure tous les jours, tu es quelqu'un de trop gentil, je vais te dire la vérité. En fait, ton directeur technique nous fait sous-traiter des choses, mais en fait, c'est lui qui développe tout chez lui à la maison le soir. Et c'est lui qui prend les sous. Nous, on gagne rien là-dedans. Il nous a juste dit que tu étais quelqu'un d'horrible. Donc, en fait, il est en train de faire un truc. Et la deuxième chose que je vais te dire, c'est que ce monsieur ne s'appelle pas Royer, il s'appelle Rosenberg. C'était le seul, finalement, le seul qui s'était opposé et qui avait eu une réaction virulente contre les mésozoïdes de mon bureau. C'est qu'en fait, finalement, très très souvent, je me suis rendu compte que dans le monde, finalement, de pourquoi est-ce qu'effectivement on est frustré de notre judaïsme dans le monde des affaires, très très souvent, c'est par rapport aux réactions de juifs eux-mêmes. Tu ne trouves pas que tu exagères de ne pas serrer la main aux femmes? Tu ne trouves pas ça? Tu ne trouves pas si? Tu ne trouves pas que manger cachère, il y a des fois où tu pourrais faire des exceptions? Tu ne trouves pas que Chol HaMoed, tu pourrais travailler? Tu ne trouves pas que si, etc. Et en fait, très très souvent, c'est des juifs qui disent ça. Très, très rarement, quand on arrive, en fait, on est fier de son judaïsme, on monte l'ensemble des valeurs que le judaïsme apporte. On montre comment ce qu'il apporte, peut apporter même à une entreprise, dans la manière d'apporter une éthique particulière, etc. Tous ces sujets éthiques, c'est des mots en l'air dans le monde du travail. C'est des mots, on crée des comités pour savoir qu'est-ce que c'est l'éthique, on crée plein de choses, etc. Mais il n'y a absolument aucune base pour ça. Les gens ne disent on doit être honnête, ils ne savent pas ce que ça veut dire être honnête. Est-ce que j'ai le droit de mentir sur le nombre de clients que j'ai? C'est pas du vol, j'ai volé personne. Est-ce que j'ai le droit de mentir sur la fonctionnalité de mon logiciel qui n'est pas encore développé, mais bon, le temps qu'il achète, il sera développé. Est-ce que, voilà, vous voyez de quoi je veux parler? Et en fait, toutes ces choses-là, elles sont réglementées finalement. Donc, nous, chez les juifs, on a des dizaines de milliers de livres et voilà, ça c'est 0,5% des livres qu'on peut avoir qui peuvent exister sur l'ensemble de ces sujets. Donc, finalement, en fait, ce que je veux dire, c'est que très très souvent, les oppositions qu'on peut avoir finalement dans le monde de l'entreprise viendront de non-juifs ou de gens que vous pensez qu'ils sont viendront de juifs, pardon, ou alors de gens que vous pensez qu'ils sont non-juifs, mais au final, qui ont soit une femme juive, quoi, un père juif, etc. Ça, c'est mon expérience et j'ai vécu mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Un jour, je me suis retrouvé dans un avion. Bon, c'était un jet privé. C'est la première fois que j'ai une seule fois que j'ai pris un jet privé avec 4 personnes. Et il y avait un goy et 2 juifs avec moi. Et à un moment, bon, il y a un comme là qui commence à raconter des trucs. C'était pas caché à la manière dont il parlait. Vraiment, il racontait des trucs. Un juif qui était là. Et à un moment, je lui dis, regarde, on est un jet privé, je peux pas aller très loin. C'était minuscule, il y avait 6 sièges. Je peux pas aller très loin. Donc je te demande, je t'en prie, ne parle pas à côté de moi de ce genre de choses, ça va pas. Il me dit, oh, tu trouves pas que t'exagères, etc. Bon, ok. Après, je ne sais pas, il commence à parler de plein de choses et je commence à parler du sujet Tahara Mishpacha. Il me dit, mais tu ne trouves pas, tu exagères, etc. Et le non-juif qui était là, il regarde comme ça, il fait, mais tu ne trouves pas que lui est cohérent et toi, tu ne l'es pas? Il dit ça en face de lui. Je peux vous dire. Et c'était en fait très, très souvent ce genre de choses. Savoir qu'un jour, il y a eu une dépêche AFP qui est sortie qui s'appelait « La double vie de Jérémy ». Donc, ça parlait de moi. Et dedans, ça parlait effectivement du fait que j'étais investisseur, etc. Je ne vous ai même pas dit ce que je fais maintenant, en plus. Bon, je vais vous le dire dans quelques minutes. Vous allez comprendre. Et le fait que j'étais investisseur, et que j'étais entrepreneur, etc. Et que j'étais quelqu'un de religieux. J'habitais le Nebrak. Vous savez, cette ville où les gens ont des chapeaux, etc. etc. Et à la fin, ça dit « Et Jérémy, la seule chose que Jérémy avoue qui peut avoir une difficulté pour le monde de ses affaires, c'est qu'il ne sert pas la main aux femmes et que c'est la seule chose qui est délicate. Mais à part ça, Jérémy est quelqu'un de très sympa, quelque chose comme ça. Cette dépêche AFP sort, donc ça repart sur plein de sites, etc. Et vous avez sur un forum musulman une énorme discussion sur ce sujet-là. Les musulmans commencent à discuter en disant « on ne comprend pas. Nous, quand on ne sert pas la main aux femmes, on nous insulte. Lui, quand on ne sert pas à main, on fait une dépêche AFP. C'est quoi le truc ?» Et en fait, moi, j'ai réfléchi parce qu'en fait, ils ont posé une bonne question. Et finalement, en fait, ce qui a été le, ce qui est important, en fait, et pourquoi les choses peuvent fonctionner, et pourquoi, effectivement, même cette chose-là, qui est très, très dure, je vais vous dire, moi, quand je viens en France, encore en Israël, les femmes israéliennes, etc., savent à peu près, pas toujours, qu'on ne serre pas la main à quelqu'un de Froum, mais quand j'arrive ici, en général, ce que je fais, c'est que j'envoie un mail la veille pour avertir les femmes que je vais rencontrer, attention, je ne serre pas la main aux femmes, mais vous inquiétez pas, je suis quand même très sympa, etc. Il y a des fois où j'allais me retrouver sur scène devant 1000 personnes avec 3 femmes sur scène. J'ai dit, vous imaginez, ils arrivent sur scène, elles veulent me serrer la main devant tout le monde. Je me retrouve mal. J'ai envoyé un mail à chacun. Il y en a une qui m'avoue, je suis juive. Jérémy, je ne suis pas aussi juive que toi, mais j'admire ce que vous faites. L'autre qui n'est pas juive, qui dit, Jérémy, aucun problème, etc. Et voilà, finalement, il faut arriver à... Il faut prier à chaque fois que j'envoie un mail comme ça, je prie que la personne en face ne l'aide pas. Ça peut être en même temps un cri de la terre, phrase de shalom. À chaque fois, mais en tout cas, Baruch Hashem, ça se passe toujours très bien. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que finalement les gens admiraient ça? Donc, dans les journaux, on parle de moi, on parle de ma vie de Froum, etc. C'est que finalement, les gens se rendent compte que cette vie cette vie de juif est, comme je l'ai expliqué, resplendit sur chacun des actes que je peux faire, sur chacune des négociations que je peux faire, sur chacune des affaires que je peux faire, sur les sociétés dans lesquelles je peux investir, dans les gens avec qui je parle, la manière de traiter les salariés. Vous savez, aujourd'hui, un patron qui paye ses salariés en retard, s'il n'y avait pas la loi qui l'empêchait de le faire, il le ferait régulièrement, d'accord? Aujourd'hui, la loi du pays, etc. Et d'ailleurs, s'il va prendre quelques jours en retard, il n'y a aucun problème. Nous, on a des dénimes là-dessus. On a des dénimes, c'est très important. Un jour, je travaillais avec, j'avais une assistante qui, enfin, j'étais consultant pour une société et on devait payer une personne qui travaillait pour nous. Et l'assistante me dit, je lui dis, regardez, il faut absolument que ça parte aujourd'hui. Et l'assistante me dit, non, mais c'est pas grave, ça part le 30, le 1, le 2, le 3, c'est pas grave. Je fais, non, la Bible dit, et cette femme-là est chrétienne, elle a une petite croix là, comme ça, voilà, la Bible dit qu'on ne doit pas, on doit payer ses salariés à temps. Donc, il faut payer aujourd'hui. Mais, monsieur Bérébi, vous allez voir, c'est très compliqué. Il faut que je fasse signer telle et telle personne, etc. Je dis, regardez, la Bible dit qu'on doit payer les gens à temps. Cette fois-là, elle a réussi à payer les gens à temps. Elle a dit, et elle disait, merci mon Dieu, on a réussi à la fin de la journée. Et à partir de là, tout le temps, les salaires étaient payés à temps. Les salaires étaient payés à temps. Donc après, bon, je vais continuer un peu mon parcours. Comme ça, vous voyez un peu ce que j'ai fait. Donc, en fait, en 2004... je vends ma société pour un petit montant, sympathique, et mon appartement le même jour. Baruch Hashem, là, c'est pas un signe du ciel. Ça, je trouve les acheteurs le matin de la société, l'après-midi, quelqu'un visite mon appartement. J'avais 2 enfants à ce moment-là, et demi, 2 et demi. Et donc, je vais voir ma femme, je dis, bon, bah voilà, on fait ce qu'on veut, on peut partir en Israël maintenant. Voilà. Et là, on a décidé, en 15 jours, on s'est retrouvés à arriver en Israël. Et là, on a le grand dilemme, c'est où est-ce qu'on habite. Vnebrak, c'était pas dans ma... je pensais même pas que j'étais capable de pouvoir habiter à Vnebrak. Je savais même pas à quoi ça ressemblait, Vnebrak, à peine. Et bien qu'étudiant, etc., je pensais pas être au niveau. Je pensais que, voilà, si des gens qui avaient Vnebrak, devaient tous être à Brechi ou des choses comme ça. Voilà. Et en fait, donc, je me suis installé à Ranana. Et là-bas, il y avait un collège où j'allais étudier le matin, j'allais étudier le soir. Et je sais pas, 6 heures par jour, quelque chose comme ça, pendant l'année où je suis arrivé. Et là, j'ai découvert mes amis de Nevrak, des Avrechim, des Rabbanim, etc., qui étaient exceptionnels. Vous les connaissez, ils sont là. Et avec qui je me suis super bien entendu. Et à un moment, j'ai dit avec ma femme, on s'est rendu compte, effectivement, à Ranana, de tous les problèmes, de tous les challenges qu'on allait avoir pour nos enfants qui étaient en train de grandir. Nos enfants étaient tout petits au début quand on est arrivé, ils avaient 2 ans et 1 an. Et donc très vite, on a été habité à Vnebrak. Ce que j'ai fait en fait depuis 2010, c'est qu'en fait j'ai été l'associé de Xavier Niel, que vous connaissez peut-être, qui est le fondateur de Free. En fait, depuis les années 2000, j'ai été très très proche de Xavier Niel. Par hasard, on s'est rencontrés une occasion, on a investi un tout petit peu d'argent dans une société ensemble et on s'est fait escroquer ensemble, donc c'était sympa. Et on est resté très très proche pendant des années, des années, des années. D'ailleurs, je suis arrivé en Israël et il m'a dit, regarde si en Israël on ne peut pas lancer la Freebox, d'accord ? Alors il me demande ça, effectivement, moi je dis ah, très bien, et je me mets à travailler sur le sujet. Et l'idée c'était de vendre la technologie de la Freebox et d'aller la vendre à un opérateur israélien pour qu'il lance la Freebox sur place. Et donc je commence à parler à Bezek, à parler à la truc. Bezek est super intéressé, on commence les réunions, on commence à travailler, finalement c'est pas Bezek, etc. Bon, on avance sur les choses. Et au plein milieu, j'ai comme ça un coup en rien, je fais ah, mais attends une seconde, je suis un fou. Je suis en train de vouloir lancer un opérateur internet avec des chaînes de télévision et tout ça. Est-ce que finalement, c'est à moi de faire ça? Et en plus en Israël, quand on fait ça en France, encore on peut se dire, on ne s'adresse pas à un public de juifs en majorité, il n'y a pas de problème de l'Ifneiver, etc. Bon, en Israël, tout est différent. Toutes les questions qu'on peut se poser sur ce genre de choses sont toujours différentes. Et là, en fait, je dis, voilà, il faut que je pose une question. Donc moi, j'étais proche de plusieurs rabbins, mais en fait, cette question, j'en ai parlé avec Rav Yechia Ben Shetrit, et qui m'a présenté à un rav, etc. Enfin, au final, je me suis retrouvé chez Rav Yehuda Shapira, Zatzal, donc que vous connaissez peut-être de réputation. C'était le voisin de Rav Kanievski, mais voisin pas uniquement physiquement, mais aussi en puissance de réflexion. Et donc, je m'assois devant lui et je lui explique. Et je vois écouter comme ça. Et en fait, franchement, je pensais qu'il allait me dire une réponse binaire comme ça. C'est-à-dire, oui, tu peux, non, tu peux pas faire ce genre de choses. Il m'a répondu comme ça. Il m'a dit, regarde, les Juifs aujourd'hui d'Israël ne t'attendent pas pour avoir la télévision. Il y a plus de 90% des gens qui ont une télévision, qui ont Internet, etc. Donc, les Juifs ne t'attendent pas. Donc, tu peux lancer ça. Par contre, dès que tu as lancé, toi, tu pars. Toi, tu restes pas là-dedans. Et en fait, qu'est-ce que voulait dire cette réponse? C'est simple, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de problème de l'Ifneiver. Tout le monde connaît ce concept. Hein. Il n'y a pas de problème de l'Ifneiver, donc je n'entraîne pas quelqu'un à côté. Mais par contre, de l'autre côté, il y a un problème avec moi. Ce n'est pas vis-à-vis des autres, ce n'est pas vis-à-vis des Israéliens qui vont voir la télévision, etc. Mais un problème de moi, c'est moi finalement, je vais commencer à vivre, à travailler dans un business qui est un business de bêtises. Et bon, Baruch HaShem, l'affaire ne s'est pas faite. Donc au final, j'ai même pas eu besoin de la quitter, elle m'a quitté tout seul. On a été arrêté par le ministère des télécommunications en Israël. Mais c'est le genre d'exemple, c'est le genre d'épreuve où on a l'impression finalement, on se dit, voilà, on est dans le monde des affaires, on est là, on est en train d'avancer. Ça n'a pas l'air trop grave ce qu'on est en train de faire. Voilà, on n'est pas en train de faire du casino, on n'est en train pas de faire le truc complètement pas cachère ou des choses comme ça. Et donc, il n'y a pas vraiment de chela. Alors qu'en fait, finalement, dans le monde des affaires, on a toutes les minutes, on peut avoir des chelotes. Toutes les minutes, on peut avoir des chelotes d'Ashkafa, de à quel point je dois m'investir dans un projet en sachant que c'est HM qui fait tout. D'accord ? C'est-à-dire, toujours le problème entre Ishtadlout et Emunah Bitachon, c'est un des problèmes les plus. Voilà, HM nous a vraiment laissé dans le flou là-dedans, d'accord? Et c'est d'ailleurs un des problèmes les plus déstabilisants d'ailleurs de la vie, je pense. C'est celui où vous devez être bien placé pour ça, pour le savoir. C'est celui où finalement, on ne sait pas à quel point on a besoin de faire semblant de travailler, sachant que c'est HM qui conduit. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Enfin, c'est un autre sujet. C'est le sujet finalement. Mais donc voilà, mais en fait, finalement, en 2010, je me suis associé avec Xavier Niel. On a investi ensemble, enfin, avec son argent, j'ai investi depuis Bnei Brak dans 360 sociétés du monde de l'Internet, dans 26 pays. J'investissais dans une à deux sociétés par semaine, tout en étudiant le matin. J'étais le premier investisseur au monde pendant plusieurs années. J'étais élu premier angel d'Europe en 2014. Rien qu'en 2014, j'ai investi dans 94 sociétés, juste pour vous imaginer le truc. Et là, pareil, en fait. Et à chaque fois que j'investis dans une société, je pouvais avoir des problèmes d'alakha. Je pouvais avoir des problèmes de... Est-ce que... Alors moi personnellement, déjà, de toute façon, évidemment, c'est mon limoud qui fait ça. C'est qu'en fait, moi, j'essaye d'investir, ou en tout cas, j'investis dans les choses utiles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça élimine beaucoup de choses. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a 90% des dossiers que je recevais, c'était des trucs inutiles. Donc, je n'ai pas investi sur les Snapchat, les trucs qui ne servent à rien, tous ces trucs-là. Mais j'investissais dans les sujets utiles. Donc, ça, c'était pas mal. Mais pareil, de temps en temps, je me retrouve à investir dans une plateforme qui fait du prêt avec Ribbit. Est-ce que j'ai un problème? Là, dans ce cas, non, puisque l'argent venait de mon associé et que c'était là. Donc, il y avait à ce moment-là, il y avait Ether. Je vais investir dans un site qui vend du vin. non cachère, est-ce que j'ai le droit d'aider, est-ce que j'ai le droit d'être métavers là-dedans, etc. Oui, il y avait, en permanence, vous avez ce genre de chez l'autre, et c'est des chez l'autre finalement. On a l'impression, nous, qu'on arrive comme ça en cette année, en 5777. C'est facile en plus cette année. On arrive comme ça en disant « Ouais, attends, les rabbins, ils ne vont pas comprendre les Sheelot, j'ai des Sheelot nouvelles, etc. » Si vous voyez les responsables qu'il y a de l'époque d'il y a, voilà, il y a 1000 ans, 1500 ans, vous voyez les responsables qu'il y avait, les discussions qu'il y avait entre les rabbinim et les gens qui vivaient, qui étaient dans des marchands, les choses, etc. C'était les mêmes questions à chaque fois. C'était les mêmes questions. Est-ce que je peux faire cette transaction sachant que ça entraîne ça? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire, je peux partir là sachant que j'ai un risque d'arriver pendant le Shabbat et que la marchandise soit arrive à ce moment-là? Enfin, il y a toutes les questions, elles sont là, elles sont toutes là, c'est les mêmes, tout le temps les mêmes. Et on est toujours là, très très souvent, on est là en train de se dire non, mais effectivement, il faut adapter. Même la chal ne sait pas répondre et donc il faut réfléchir. Mais moi, personnellement, j'ai un problème. C'est qu'on dit qu'il faut adapter la halakha. Et même des froums disent, vous savez, il faut répondre à des nouvelles shélotes. Mais à 99,9%, je ne vois pas la nouvelle shéla. C'est la même. C'est les mêmes sujets. À part qu'il y a des petites différences sur la manière dont ça peut se passer, sur les trucs. Après, sur la HKFA, sur aujourd'hui, par exemple, le défi d'Internet. C'est un défi. Je donne un cours ce soir à la synagogue de la Roquette sur ce sujet-là. Le sujet d'Internet, c'est un vrai sujet, où là, il faut savoir comment prendre la chose. Et même vous dire, on est en pleine guerre, dans le sens où on ne sait pas encore comment se battre contre ça. D'accord ? On ne sait pas encore réellement comment se battre. Là, je vois des iPhones à côté de moi, des choses comme ça. On ne sait pas encore comment arriver à ça. Donc là, effectivement, on a besoin de moderniser dans le sens repenser, pas dans le sens faire des choses nouvelles et prendre des coulottes. Mais pour moderniser la manière d'appréhender les choses, on a un nouveau Nisayon du Dor qui est celui d'Internet. Il faut arriver maintenant à réfléchir différemment. Mais pour tout ce qui est dans le monde des affaires, les différentes chaînes, etc., c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et je parle, c'est responsable. C'est juste gigantesque. Donc voilà, donc moi j'ai investi comme ça jusqu'en 2015 dans plein d'entreprises qui démarraient. En 2015, j'ai quitté Xavier Niel. Je suis toujours associé à toutes ces anciennes entreprises. Qui grossissent doucement ou certaines vont bien. Et là, en fait, je conseille la deuxième fortune de Russie, qui est juive, d'ailleurs, par coïncidence, peut-être pas. Et en fait, je conseille son fonds d'investissement qui gère 16 milliards en banque, je ne sais pas si vous imaginez. Enfin, maintenant, on a 9 milliards, ils ont dépensé un peu. Et on investit. Et on investit entre 50 et 500 millions de dollars par société. Là, vous imaginez, moi, je suis là. Franchement, je suis là, je vis le truc. Les gens me disent, ah, Jérémy, bravo et tout. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Tu dois être super fort et tout. Franchement, je suis là au milieu. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Ça, pour par exemple, sur ça, j'étais en train de quitter Xavier Niel. On a eu un petit accrochage à la fin de notre collaboration. Et j'étais en train de quitter. Franchement, je ne vais pas dire que j'avais peur. Mais j'avais une marque locale entre mes rabbins. Il y avait des rabbins qui disaient que j'étais en train de faire une erreur sur le fait de quitter. Et d'autres qui me disaient, Jérémy, vas-y, tu as raison, il faut que tu prennes l'air. Et bon, et donc j'avais... Vous savez, on a des doutes comme ça. On est là, on part dans le vide, etc. Mais bon, voilà, on a la émouna ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, c'est pas parce que maintenant je travaille avec cette personne que je réussis, maintenant je vais travailler avec une autre personne, je vais pas réussir. Bon, il y a des lignes de Mazal, etc. Mais je pense pas là-dedans. Mais voilà, je veux partir. Et là, à un moment, je reçois un appel. Un chasseur de tête veut me parler. Je fais OK, on se parle. Voilà, monsieur Bérébi, on veut me recruter à Amsterdam pour devenir vice-président d'un opérateur télécom s'occuper des acquisitions de l'opérateur télécom. L'opérateur, j'avais jamais entendu parler. Ils ont 220 millions de clients dans le monde. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de gens. C'est les plus gros opérateurs au Pakistan, en Russie, en Ukraine, en Ouzbékistan. Tous ces pays, il a fallu que je prenne une carte pour savoir où ils se trouvent, et Algérie, en Italie. Et moi, je dis, regardez, je ne cherche pas de job, je ne cherche pas à rejoindre une société. En plus, le poste est à Amsterdam. Non, merci. Par contre, si vous voulez, avec plaisir pour vous aider, quoi. Je peux vous donner des conseils, etc. Ça me coûte rien, ça vous coûtera rien. Ah, vous avez... Et je leur explique, je leur dis, voilà, je suis en train de quitter mon associé en ce moment. Ah là là, d'accord, on ne savait pas. Bon. On revient vers vous, ils reviennent vers moi, effectivement, quelques jours, quelques, jours après, avec effectivement le fonds qui détenait cet opérateur télécom qui voulait que je travaille pour eux. Enfin, je travaille pour eux, je suis consultant, je fais partie de ce qu'on appelle l'advisory board, du conseil de l'entreprise. Et on a commencé à travailler comme ça. Mais c'est plein de chances qui font qu'effectivement on peut se retrouver dans une bonne situation, ou alors certaines fois de, on va dire malchance, mais alors que c'est pas le bon mot, mais certaines fois HM veut qu'on veut se retrouver dans une situation qui peut être un peu éprouvante, un peu une épreuve, etc. Et finalement en fait toute la question c'est à quel point notre vrai Nisayan, c'est à quel point on va passer ce cap avec Emouna. Ça a l'air simple ce que je dis, d'accord, ça a l'air d'être des choses qui tiraient de livres. Mais je dis vraiment, quand je vous dis qu'il y a à permanence, on se retrouve face à des épreuves comme ça, et en permanence, on oublie que finalement, notre seul Sheela, ça va être, est-ce que je passe ça en disant HM est à côté de moi ou pas? D'accord? Je dis, si on arrivait à penser comme ça, je pense que le monde changerait énormément. On est en permanence, enfin, très très souvent, en train de se dire, voilà, je suis au Beit HaMidrash, je suis en train d'étudier, tout va bien, je suis dans ma sugya. Je rentre dans mon travail, mince, il m'arrive un problème, je fais mince, on a piraté le contrat, ça s'est mal passé, au secours, mince, c'est, on a une bonne ou mauvaise nouvelle, etc. Et en disant ça, finalement, on est en train de dire qu'HM nous a entraîné quelque chose dans notre vie qui est pas bien. On est en train de dire, alors qu'on est censé dire à Kol Letova, certainement on dit à Kol Letova un peu comme ça, en l'air, comme ça, c'est un genre un truc de grand-mère, tout est pour le bien, tout est pour le bien. Mais quand on est là en train de rater un contrat énorme, ou quand on est là en fait finalement avec avoir un conflit particulier, avoir des choses comme ça, on est là à retourner à la maison triste, avec de la frustration, avec du stress, avec plein de choses. Et là on est juste en train de dire, HM, l'épreuve dans laquelle tu es en train de me mettre, enfin pas l'épreuve, justement on ne pense pas que c'est une épreuve, on dit HM, pourquoi tu me fais ça? On a comme ça, on a genre un reproche finalement vis-à-vis d'HM. Ouais, HM, ou des fois on pense même pas à HM, on dit mince, j'ai pas réussi, c'est dommage, je serais arrivé 5 minutes avant au rendez-vous, j'aurais eu ce contrat, j'aurais pu essayer, j'aurais fait ça. Et finalement, en fait, si on étudie tous les livres sur la Hashgacha, sur le Mouna, Bitachon, etc., il est clair et net que on ne conduit rien et que tout ce qui va nous arriver dans notre vie, finalement, fait partie de l'histoire qui a été tracée. Et quel est en fait finalement notre rôle à avoir à ce moment-là, à chaque moment de l'histoire, c'est effectivement, enfin, on a deux rôles. Il y a un rôle qui est-ce que finalement je vais avoir HM avec moi dans cette chose que j'appellerais une épreuve? Est-ce que HM est là avec moi? Et la deuxième chose, c'est est-ce que je vais choisir le bon chemin ou le mauvais chemin? D'accord? Vous connaissez tous cette Gemara, enfin tous peut-être pas. Il y a une Gemara dans Maseret Nida qui dit qu'il y a un malach qui est memouné à l'aérayon, qui s'occupe des naissances. Il s'appelle Laila. Et là-bas, on voit le malach amène à Kadosh Baruch Hu une tipa, le fœtus, on va dire, de l'enfant avant sa naissance, et va demander à Kadosh Baruch Hu est-ce que ce tipa va être chacham ou tipesh? D'accord? Est-ce qu'il va être sage ou bête? Est-ce qu'il va être gibor ou chalash? Fort ou faible? Ou est-ce qu'il va être achir ou ani? Riche ou pauvre? À ce moment-là, Hachem donc décide, est-ce qu'on va être riche ou on va être pauvre? Est-ce qu'on va être on va être fort ou on va être faible? Est-ce qu'on va être spécialement super haram ou pas? D'accord? C'est décidé avant la naissance. Et là-bas, la Gemara demande, il dit, pourquoi il ne demande pas Tzadik ou Racha? Kede Rabbi Hanina, Akol Bide Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. D'accord? Tout est décidé, tranché dans le ciel, sauf la Irat Shamaim, sauf la crainte du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, alors que finalement, dans notre vie, on met nos efforts, et vraiment nos efforts, je veux dire, on peut mettre 80% de nos efforts mentaux et notre temps sur notre parnassa, d'accord, et sur notre participation au monde pour arriver à être achir, ou certains vont aller faire de la musculation pour être plus fort, et etc., etc. Ça, finalement, c'est déjà tranché à l'avance. Finalement, Voilà, c'est déjà, Hachem a déjà décidé. Évidemment, je fais une parenthèse pour au cas où les gens ont des questions dans la tête, c'est que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour avoir la parnassa, ça ne veut pas dire que ça arrive tout seul en restant. Il y a énormément de choses. On prie à Rosh Hashanah pour avoir la parnassa. Donc, malgré le fait que ça soit fixé, il y a quand même des péoulotes à faire. Je ne parle pas des péoulotes matérielles, je parle même de la tfila qu'on peut faire, etc. Mais finalement, la seule chose qui reste pour nous, ça va être qu'est-ce que je vais faire au moment où je vais avoir une épreuve. Comment effectivement est-ce que je vais pouvoir prendre le derer Hayasha, tzadik, ou le derer du racha. Tzadik au racha, je ne sais pas si vous savez, dans la Torah, tzadik au racha, c'est pas le tzadik, c'est Baba Salé ou Rav Kanievski, et le racha, c'est Aman ou c'est Bilam, d'accord? Dans la Gemara, c'est pas ça, tzadik au racha. Dans le Rambam, vous voyez, quand on rapporte que à Rosh Hashanah, on peut être dans le livre des Tzadikim ou dans le livre des Rechaim. C'est quoi celui qui est dans le livre des Tzadikim? Celui qui a plus de mitzvot que d'Averot. C'est quoi celui qui est dans le Rechaim? Celui qui a plus d'Averot que de mitzvot. Et le Benoni, il est au milieu. Quoi alors? Ça veut dire quoi? Il y a juste trois catégories. On peut être soit Tzadik, soit Racha, soit au milieu, on est effectivement Benoni, qui est finalement un cas un peu particulier. D'accord? Mais on a, nous en permanence, la possibilité d'être Tzadik dans tout ce qu'on fait. Et c'est pas qu'on a c'est qu'on a l'obligation d'être tzadik dans tout ce qu'on fait. Et comme je l'explique, être tzadik, ça n'a rien à voir avec être le gadol ador. D'accord? C'est pas ça. Le tzadik, c'est celui qui va, au moment où il va se retrouver face à une épreuve, il va décider de trancher pour le bien ou va décider de prendre le mal. Je vais vous dire par exemple des exemples. D'accord? On se retrouve, quand il se retrouve recruté en tant que commercial dans une entreprise. Un commercial, en général, on lui apprend à mentir. D'accord? On lui apprend à... Alors, soit on lui apprend à cacher des défauts, soit on lui apprend à, effectivement, embrouiller les gens, effectivement, pour qu'ils ne voient pas la chose, ou alors, effectivement, certaines fois, on va lui apprendre à exagérer. Ou alors, on va lui apprendre à vendre plus cher que prévu, etc. Et donc, on va dire, bon, moi, je vois, en fait, aujourd'hui, je vais vous dire même, ça arrête, nous, on a un vrai problème à Bnei Brak, c'est qu'à Bnei Brak, il y a des gens qui ont été avrechim et ont décidé d'aller travailler. Et je vais vous dire, malheureusement, quand ils vont travailler, dans une grande partie d'entre eux, tout est devenu éclair. Ils se mettent à mentir, à tricher, à faire énormément de choses qu'ils n'auraient jamais imaginé de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont oublié qu'on doit se retrouver face à une dave de Gemara ou face à un contrat avec un client, on doit réfléchir de la même manière. Comment je fais pour respecter toute la halakhot dans mon contrat commercial? Est-ce qu'il y a un problème de ribit? Est-ce qu'il y a un problème d'onar, de valeur, de fixation de valeur de prix? Est-ce qu'il y a un problème de mes cartes out? Je ne suis pas en train de vendre un produit, là, le client pense signer sur quelque chose et au final il va obtenir quelque chose d'autre, etc. etc. Vous savez, quand vous vendez, je sais pas, vous êtes vendeur d'assurance ou des choses comme ça, vous avez énormément de problèmes, ceux de mes cartes out. Quand quelqu'un va s'assurer, il va penser qu'il va être assuré quand il va avoir un problème chez lui, et à chaque fois qu'il va appeler l'assurance, on va dire il n'y a pas, non, c'était uniquement s'il y a un tremblement de terre ou je ne sais pas quoi. Au contraire, vous savez, là en Israël, quand il y a les incendies, il y a eu la semaine dernière, donc à Haïfa, des dizaines de maisons, je ne sais pas combien, beaucoup de maisons vont brûler. Les assureurs disent non, on ne paye pas, c'est une catastrophe naturelle. Les gens n'ont plus de maison, d'accord? Il y a l'État qui va leur donner 100 000 shekels, ils n'ont plus de maison, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Ça, à un moment ou à un autre, c'est quand on est là en train de vendre des choses, très très souvent, en fait, surtout malheureusement, chez nous les Juifs, on est très malins. On est très très malin. Et on peut utiliser notre malinerie pour aller trouver une rochma, pour aller tromper le client. Pour aller tromper, pour aller trouver une faille, pour aller faire des choses qui sont borderline. On dit, non, c'est pas du gazelle ça. Je lui vole rien. Il approuve, il a lu le contrat, il sait très bien ce qu'il est en train de faire, etc. etc. Alors que quand vous étudiez Rochel Mishpat, pas si vous avez étudié Rochel Mishpat, si vous n'étudiez pas Rochel Mishpat, je vous conseille de lire le Shulchan Aruch Harav tous les jours, un petit passage. Je dis, c'est un bon conseil que plusieurs d'Olim nous donnent, au moins qui résume beaucoup les choses. Vous allez vous rendre compte à quel point on peut fauter dans le monde du travail tous les jours, toutes les minutes, sur ce genre de choses. Et donc, ce que je vous dis, c'est qu'on est en permanence, on doit se dire qu'on a, à n'importe quel moment de notre vie, sur la manière dont on va parler, la manière dont on va marcher, etc., on doit vivre sa vie de juif. Je vais prendre quelque chose qui est arrivé d'ailleurs malheureusement ici à Pavé. Et c'est une histoire très, très intéressante. Il y a eu j'ai un ami à moi que j'ai rencontré il y a quelques mois. Il me dit, voilà, c'est un entrepreneur, il habite à San Francisco. Je ne sais pas si vous aimez, San Francisco, le judaïsme là-bas, c'est une catastrophe. Donc ils ont fondé une synagogue, ils ont inauguré un Sefer Torah, ils ont des écoles, mais bon, c'est vraiment très là, etc. Bon. Et avant, il vient me voir, il me dit, Jérémy, regarde, là, je vais avoir un peu plus de temps. Et alors je lui dis, ah, bah, c'est bien, tu vas pouvoir étudier. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. À chaque fois que je regarde, je dis, ah, bah, tiens, tu vas pouvoir étudier. Et il me dit, ah, oh, c'est rigolo et tout. Alors, bon, viens, on parle sérieusement. Je fais, non, 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 non. Non, 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 fais, bah, maintenant, tu me dis que tu as du temps, tu vas étudier. En parenthèse, j'ai une parenthèse. En 2000, il y a eu les 35 heures qui sont passées en France. Moi, j'étais entrepreneur, je dis, mais c'est une catastrophe, les 35 heures, etc. Mais c'est quoi cette histoire? Et un jour, je déjeune avec Chaim Nissenbaum. Je sais pas si vous connaissez Chaim Nissenbaum, qui a écrit la Sidra de la semaine, qui est le porte-parole du Beit Lubavitch. Savoir que Chaim Nissenbaum, je sais pas s'il est toujours, mais était le directeur de la communication du ministère de l'Emploi. Donc, juste un petit truc. Et je m'assois avec lui, je dis, ouais, les 35 heures, ils exagèrent, l'État et tout. Il me dit, mais Jérémy, tu te rends pas compte qu'Hachem vient de nous offrir 4 heures par semaine de limoud? Comme ça, il veut le voir. Il avait mille fois raison. On a en permanence, on a de temps en temps, on a une occasion comme ça, les trucs, on est en train de penser, ouais, mais on va produire moins, etc. Non, Hachem, il nous offre du limoud de plus. Bon, parenthèse. Donc, je continue avec mon ami, donc je lui parle, etc. Je fais, non, 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 regarde, viens, on parle. Je dis, non, mais tu sais pas si je peux faire une mission dans telle voie. Je fais, attends, regarde. D'abord, tu vas fixer tes horaires de limoud, et après, on va voir, on va parler du reste. Après, t'as raison, Jérémy. Je pense n'importe quoi. T'as raison, allons-y, etc. Mais il veut que je te raconte une histoire. Il y a 15 ans, j'étudiais à Pavé, j'étudiais avec deux jeunes garçons. Et on étudiait l'Hilchot Shabbat. Est-ce qu'on peut ouvrir le paquet de Shabbat ou pas, etc. Bon, il me dit, bon, c'était pas super intéressant, mais je savais que j'étais content d'aller là-bas, quand même. Et je commençais à étudier comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin de chaque repas, on allait tous déjeuner ensemble à côté. Dîner ensemble, pardon. On allait tous dîner ensemble. Et par contre, ce qui m'a embêté, c'est que à chaque fois qu'on allait dîner, mes maîtres que j'admirais dans le limoud étaient en train de faire du lashon hara. Étaient en train de faire du lashon hara. Il m'a dit, ces choses-là m'ont dégoûté. Ces choses-là m'ont dégoûté. J'ai plus étudié depuis. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de parler de quelqu'un qui avait fait l'effort d'aller étudier. Il commençait à étudier le Chod Shabbat. Il a abandonné uniquement son limoud parce qu'il y avait un juif. On est tous faillibles, d'accord? Et c'est arrivé ici, c'est une coïncidence. J'ai déjà parlé de ça sans citer le nom de... Juste pour vous rendre compte que ça peut arriver de n'importe où. Ça peut arriver d'un makom de Kdoucha comme ici. D'accord? Un juif, il a été dégoûté par le limoud parce qu'il y avait un rav ou un bachour, un avraham, etc., qui sait bien faire du lashon hara. Je me suis retrouvé il n'y a pas longtemps, je suis dans la même situation. Je me suis retrouvé avec plusieurs groupes de juifs. On était au Brésil, M. Kissous aussi qui était là, etc. Et on se retrouve au Brésil avec plein de jeunes donc, qui sont venus en truc. Et j'entendais certaines fois les responsables de groupe qui parlaient. J'entendais, il y avait du lashon hara. Ah, mais alors des fois c'était, ah, les Marocains. Bon, c'est classique les Marocains. Mais ah, les Marocains, ah mais non, mais les orthodoxes de Mébrac, ah mais non, Rav Ovadia, ah mais non, le groupe d'en face, ah mais non, mais dans telle ville ils font ça, mais nous on fait pas ça, etc. Je dis, mais vous vous rendez pas compte? On est là en fait, on a oublié qu'il y a eu le Chod Hashanara, ou alors on l'a peut-être pas lu, on se dit, bah ça n'existe pas si on l'a pas lu, je suis pas encore McPeed sur une chose comme ça. Mais on est en train de dire que finalement on est là, on est en train de faire du kiyouv, on est en train de parler à plein de jeunes. On est en train de parler à plein de gens, etc. Et on est là en train de faire des fautes qui sont les plus graves qui existent. Donc, c'est pour ça que je suis en train d'expliquer, c'est que finalement, dans chaque petit pas de notre vie, il faut réfléchir à est-ce qu'on fait bien ou pas. Rambam dit que je ne sais plus comment il dit ça, finalement, enfin, c'est pas que le Rambam, mais Pirkei Avot aussi, qui dit que la shtika, le fait de se taire, c'est la meilleure chose qu'il a vue dans sa vie. D'accord? Voir des chachamim qui se taisent. On doit effectivement. C'est quoi se taire? Se taire, c'est se dire, je parle uniquement quand c'est nécessaire. Je fais quelque chose, finalement, et en fait, indirectement, même quand je dois faire des actes, je vais faire des actes uniquement quand c'est nécessaire. Je ne vais pas parler en disant, voilà, je vais raconter des histoires, je vais commencer à raconter des blagues, je vais raconter à faire des trucs, et finalement, je parle pas, et hop, on parle dans du lashon hara, on parle sur du mensonge, on parle sur plein de problèmes là. Donc, Donc en fait, c'est ça en fait le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est de dire, on est aujourd'hui dans un monde qui est juste un jeu. C'est juste un jeu. C'est comme Hachem nous a envoyé dans ce monde juste pour jouer, pour qu'on puisse passer à un jeu. Comme je dis, jeu, je parle des jeux vidéo. Moi, j'ai vécu dans ma jeunesse avec beaucoup de jeux. Et ça fait bien longtemps que je n'ai pas joué. Mais un jeu, c'est quoi? C'est quoi? C'est on passe des niveaux. D'accord? On passe vraiment les niveaux. C'est que on est là, effectivement, donc on va aller respecter un certain moment dans un environnement de travail des choses qui étaient difficiles pour nous. Et comme dit le Mirtam Eliaou, si vous voyez Mirtam Eliaou, certaines fois on est face à des épreuves qui, dans un an, ces épreuves ne seront même plus des épreuves. D'accord? On est là, quelqu'un qui va se dire qu'il ne mangeait pas cachère ou qu'il mangeait cachère, mais. Enfin, il mangeait dans un restaurant Tarev, il allait manger une salade ou un truc comme ça. Maintenant, il décide, c'est pas cachère. Et maintenant, il décide de manger cachère. Waouh! Vous imaginez la guerre qu'il fait pour ça? Vous imaginez dans son foyer quand il va commencer à manger ça? C'est une guerre, c'est inimaginable. Un an après, il n'y a plus rien, ça fait plus partie de ses épreuves. On a déjà gagné cette guerre. D'accord? On est passé au niveau 2. Niveau 2, après, il arrive. Est-ce que je vais me le réveiller à la choule le matin? D'accord? Bon, déjà le Shabbat. Bon, c'est compliqué, je vais aller à 10h. Après, etc. Après, c'est tous les jours. Et chaque, en permanence, on est là à gagner du terrain. C'est une guerre comme ça contre les Sahara qui nous fait avancer. Et finalement, en fait, c'est quoi en fait le but de la vie? C'est d'arriver à s'approprier des choses qui paraissent dures aujourd'hui, mais de faire en sorte à ce que ces choses-là, on les surmonte quelquefois et fasse partie de notre vie. Fasse partie de notre vie. À un moment, les gens m'ont dit, à quel moment tu as fait tchouva? J'ai fait tchouva? Moi, j'ai fait tchouva? Je ne sais pas de quoi ça parle. À quel moment j'ai... Chaque jour, on doit essayer en permanence de faire quelque chose de mieux. Si, par exemple, je vous prends un exemple. C'est personnel. Cette année, j'ai décidé, j'ai pris pour moi... Ça, en cherchant, on doit prendre des grandes décisions. D'accord? On doit prendre des énormes décisions. On doit prendre des décisions importantes. Moi, j'ai décidé une décision. Quand je fais la birkat Asher Yatzar, je ne bouge pas. C'est ça ma décision de cette année. Et le comprendre plus ma tefila. Mais c'est ça ma décision de cette année. Pas dire, ok, quoi d'autre? Attends, vas-y, arrive à faire ça. Je peux vous dire que c'est très dur. Maintenant, bah, au prochain, ça fait 2 mois que je tue, je commence à le mettre. Mais quelle épreuve! Quelle épreuve! C'est incroyable, on est là, on est truc. C'est une épreuve. Et en fait, c'est ça en fait. C'est qu'on doit en permanence voir quels sont les terrains qu'on n'a pas conquis. Quels sont les terrains qu'on n'a pas conquis et aller les acquérir peu par peu. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous Bezrat Hashem plein de succès dans votre conquête du bien. À l'inverse, malheureusement, on peut très très vite pareil, tomber dans le mal en commençant à faire des choses mal et en oubliant que c'est mal. Ça aussi, ça fait partie des énormes problèmes qu'on peut avoir. Donc toujours bien vérifier, avoir la menuchat nefesh nécessaire pour arriver à étudier notre vie, analyser notre vie. C'est un des sujets, c'est pour ça que quand je parle d'Internet, les gens vont penser que je parlais ce soir d'Internet, je vais parler des contenus, des trucs pas bien, qu'on trouve sur Internet et tout. Non, le seul problème, le vrai gros problème d'Internet, c'est qu'on n'a plus de menuchat nefesh. On n'a plus de menuchat nefesh, c'est terminé. On est en permanence de sérénité, il n'y a plus de sérénité. On est en permanence avec des messages qui nous arrivent. Et quand je dis Internet, parce que le mot que je dis là, hein, quand le téléphone portable est arrivé, Rav Vozner Zatzal avait sorti une chovera qui s'appelle Zman Avir, qui disait, un téléphone portable, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le juif. Pour plein de raisons. Il faut venir ce soir si vous êtes client. Mais c'est une catastrophe. On n'arrive plus à... On a des gens qui vont nous déranger. Pendant notre moment, on est en train de réfléchir. Et pourquoi on a besoin de réfléchir chez les juifs? Pas uniquement parce qu'on est devant notre table de Gemara. On va dire, bon, c'est pas grave, le téléphone, quand je suis à table, je suis en train de manger, ou quand je suis dans la rue, etc., c'est pas grave. C'est que non, on a besoin, nous les juifs, de faire un cheshbon nefesh tous les jours. Tous les jours, on doit se dire, est-ce que je fais bien? Et qu'est-ce que je fais pas bien? Qu'est-ce que je fais pas bien, là? Est-ce que finalement, je parle bien? Est-ce que je mets pas trop de temps dans mon travail? Est-ce que je fais pas de choses? Ce genre de shélot, elles doivent être permanentes. Et finalement, la vraie preuve d'Internet, c'est ça. C'est qu'en fait, on nous enlève les moments où on peut respirer. Les moments où on peut réfléchir. On communique aux toilettes, on communique au téléphone. Maintenant, j'ai vu une société il y a quelques mois qui a une technologie pour rendre les téléphones complètement waterproof. On peut les mettre sous l'eau. Donc sous la douche, hop, on communique sous la douche. Hein? Il y a plein de gens qui ont des idées sous la douche. Pourquoi les gens ont des idées sous la douche aujourd'hui? C'est le seul moment où il n'y a pas le téléphone, il n'y a rien. Il y a plein de trucs, je vous dis, les entrepreneurs, dans plein d'histoires de biographies d'entrepreneurs, les gens racontent qu'ils étaient sous la douche, ils ont une idée. Pourquoi? Bah, c'est l'eau qui coule, il y a un truc. Mais non, c'est parce qu'on ne fait rien d'autre. Et c'est ça le problème d'Internet. C'est ça le problème d'Internet. Et aujourd'hui, on a les Marcherim, dans plein d'endroits, etc. Les Marcherim, ils ont le même problème. On n'a plus ce nous. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'est on doit choisir entre le bien ou le mal en permanence. On doit être en permanence en train d'analyser notre vie et essayer de faire bien. Et Bezrat Hashem, c'est ce que je vous souhaite.
Est-ce qu'il y a des questions?
C'est dans les temps. Bonjour. Moi, j'investis plus dans les petites startups. Ah, c'est bon.
Razak,
ah, oui, vous avez 15 ans d'avance sur moi, c'est la charrière, ça.
Et vous, vous bloquez votre téléphone quand vous étudiez, s'il vous plaît.
C'est 3 ans que je fais.
Déjà, mon téléphone, c'est pas un smartphone. Ouais. Et personne a mon numéro. Quasiment personne. Madame Melita, elle fait partie des très rares avec mon numéro. Et voilà, effectivement.
Il faut être mid-gabère avant.
Ah, non, mais il faut mettre des barrières. Ça, que pour que les gens m'appellent pas, que j'ai pas le téléphone, j'utilise plus le téléphone quasiment. J'utilise quasiment plus jamais le téléphone.
Moi, j'ai un téléphone qui ne sonne pas, qui ne vibre pas.
Voilà, c'est ça. Voilà, là, voilà, celui-là, elle est éteinte, de temps en temps.
C'est pas dire
moi,
ça. Voilà. Est-ce que vous conseillez les études pour les jeunes?
Les études? Moi, je conseille jamais les études. Moi, je conseille d'abord de savoir ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire dans la vie, et après, de prendre le masloul le plus court et le plus cacher pour arriver à ce métier. Mais ne jamais réfléchir aux études en premier. Moi, j'ai pas fait d'études. À 19 ans, j'ai...
Et comment vous êtes rentré alors?
Je suis rentré par la porte. Qu'est-ce que vous me dites? Je suis rentré en parlant à des gens, en envoyant un mail à un rédacteur en chef d'un journal, il m'a connu, et après, il m'a remarqué dans un truc.
Une achamaille.
Mais ce que je veux dire, c'est... Moi, je vois un truc. 90% de mes amis qui ont fait des études, enfin quasiment tous ont fait des études, 90% ne font pas le métier sur lequel ils ont étudié.
Non, parce que moi, je n'ai pas fait d'études, mais mes parents, ils ne veulent pas en sortir.
Non, mais les parents ont un problème. C'est surtout, souvent, les parents qui n'ont pas fait d'études veulent que leurs parents fassent des études. Mais moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études. Je veux dire, par exemple, si quelqu'un veut être médecin, il n'a pas le choix de faire des études. D'accord? C'est ça. Il dit, moi, dans ma vie, je sais que je vais être médecin. Il va faire des études, il va trouver le masoul cachère, etc. Et c'est un vrai problème d'arriver à être médecin en étant chômeur sur la maison. Il y a des gens qui ont réussi, donc c'est bon. Mais les études, on ne doit pas dire, fais des études, après on verra. Quelle chouillotte. C'est faux.
C'est un moyen, les études.
C'est un outil.
C'est un outil. Technique. Voilà.
Technique. Comment je fais pour arriver à
ça? À Mnebrak. Les études.
C'est une catastrophe.
Complètement.
Mais moi, quand j'étais à Maïmonide, il y avait ça. Il y avait cet Avodazara là. Et ça m'a dégoûté. Mais je ne pouvais plus. Mais je ne comprenais même pas. Et quand je dis aujourd'hui, les gens qui sont sortis des études, OK, ils sont employés de boîte. Ou alors, ils ne font pas du tout le truc qu'ils ont étudié. Il y en a, il a fait informatique, il vend des bijoux. L'autre, il a fait finance, il vend des poussettes. Je vous dis, il y en a un qui est cardiologue et il a vraiment fait d'études, il est devenu cardiologue. Je crois d'ailleurs qu'il étudie ici. Vous connaissez Marc Captan? Il étudie?
Il est
ophtalmo. Ah non, c'est pas le même.
C'est
un
cardiologue.
Ah, un cardiologue. Et voilà, c'est, les études, c'est pas une obligation. Mais il se passe un truc à Bnei Brak en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à vouloir une parnassa à Bnei Brak. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des masourim chérim. Et les masourim les plus courts possibles. Pourquoi? Moi, genre, par exemple, il y a une école à Paris qui s'appelle l'EMI, l'école du multimédia. Une école à la bourse. L'école du multimédia. Un jour, je vois le programme de l'EMI. Et je dis au patron, c'est un de mes amis, qui est le patron de vente privée, je lui dis, attends, j'ai regardé le programme, le programme ça s'apprend en 3 mois, pourquoi ça dure 3 ans? Il me dit, Jérémy, les gens qui viennent, ils ont 18 ans, ils sont pas mûrs pour entrer dans le monde du travail, alors on les garde 3 ans. Vous vous rendez compte?
C'est du babysitting.
Le même masloul, la même chose, on a la même chose dans les bras qu'il y a des masloulim comme ça, 3, 4 mois, pas les choses. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre, j'ai encore un...
la femme et, le fils d'une des grandes personnalités de Sabot qui a été chez moi vendredi. Le fils maintenant est un bachour, il a 20 ans, il veut plus continuer à Yeshiva, il veut se mettre à travailler. Et c'était, je vais faire des études de 3 ans, et je vais faire ci, et je vais faire ça, etc. Je lui dis, voilà, t'as ce masoul là, c'est 6 mois. Pourquoi tu veux pas le faire? Ah, mais tu penses vraiment que tu... Mais attends, le but c'est que tu aies un métier. Le but c'est que tu aies un métier. Tu vas apprendre là quelque chose pour avoir un métier. Pourquoi tu as besoin de dire que j'ai besoin de faire 3-4 ans d'études? Je crois que les gens... Moi, un jour, j'ai quelqu'un qui m'envoie un mail, il me dit, voilà, je viens de finir Polytechnique, maintenant je fais quoi? Je plaisante pas. Hein. Ou je viens de finir HEC, maintenant je fais quoi?
Spécialisation.
Hein? Non, mais ouais, bah, en général ils font ça. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils font même en Israël, Tohar Sheni, Tohar Shishi, et à la fin, hop, ils vont donner des cours de maths. Voilà. Ou ils vont faire des trucs. Mais. Ils reposent. Hein. Et là, mais je dis, bah, non, la femme, cette femme-là, avec qui j'ai parlé, c'est une auteure de livres très connue, Charles Kroll et tout, c'est quelqu'un de beaucoup de Chokhma. Elle me dit, oui, mais regarde maintenant, il n'y a pas de Mizgeret, où est-ce qu'il va aller travailler, etc. Là, là. Ta question que tu as maintenant, tu auras la même dans 3 ans. Donc pourquoi tu veux pas affronter le challenge maintenant? On va se repousser, on est là, allez, tu dis,
oh, on bloque un peu l'accès en France aux gens qui n'ont pas des diplômes valorisés.
C'est faux.
Non,
c'est faux. C'est faux, c'est un mythe. C'est un mythe. Il faut, par contre, il faut savoir faire quelque chose.
Il faut avoir des compétences.
Compétences dans un sujet. Il faut avoir une expertise. Si un pro de la finance, aujourd'hui, bon, ça fait partie des avantages d'Internet, mais on peut se former sur plein de choses. Et même en achetant des livres, on va acheter un gros pavé comme ça, on connaît mieux que beaucoup de gens qui sortent de l'école. Mais c'est. Bah, je travaille sur des sujets, je conseille des grandes entreprises. Je déjeune avec un des patrons de BNP là ce midi. D'accord? Je vous dis, on parle de sujets, c'est de l'avenir de la banque, pas de ce qui s'est passé. Faire des sujets comme ça. Pourquoi? Et comment je connais ça? Parce que j'ai lu plein de choses, j'ai lu plein de choses sur le sujet. Et je ne suis pas plus racham qu'un autre, je peux vous dire, je suis même moins racham que beaucoup. Mais, voilà, j'ai étudié. Et j'ai confiance en moi, j'ai confiance au fait de pouvoir étudier. Donc, les études, c'est uniquement si le métier que je veux faire nécessite des études. Sinon, n'y pensez même pas. Mais par contre, savoir quel est le métier que je veux faire, il faut se poser la question le plus vite possible. Plus vite possible. Ouais. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? À quoi va ressembler ma vie? Quoi va ressembler mon emploi du temps? Est-ce que je vais étudier tous les matins? Est-ce que je vais étudier le soir? Comment je vais faire quand j'aurai des enfants? Dans quelle ville je vais habiter? Est-ce que je vais habiter en Israël après? Et même là-bas, même dans quelle ville, etc. Et là, faire un genre de plan. Évidemment, HM contrôle tout, donc ça ne va pas se passer exactement comme ça va jamais passer comme prévu. Mais en tout cas, avoir un peu de vision un peu long terme pour se dire voilà où je veux arriver, mais voilà le masoul pour y arriver. Maintenant, mais il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance au fait qu'Hachem envoie la parnassa. Il envoie la parnassa à un homme qui fait des études, un homme qui ne fait pas des études. Alors on sort des statistiques en disant oui, mais regardez, les statistiques mondiales montrent que les gens qui ont fait des études ont plus de parnassa que les gens qui n'ont pas fait d'études. Je fais, ouais, mais il n'y a pas de statistiques que pour les juifs. Ou En Mazal d'Israël. En Mazal d'Israël. Moi, j'ai parlé avec l'ancien. Je crois que c'est le patron de la Banque d'Israël ou quelque chose comme ça.
Oui.
Non, mais moi je crois que c'est le patron de la Banque d'Israël, quelqu'un de très très connu. Comment il s'appelle? Oh, des trucs comme ça. Et en Israël, c'est toujours le sujet. Ouais, les Haredim, on s'inquiète et tout, nanana. J'ai jamais vu autant de voitures de luxe qu'à Bnei Brak. C'est inimaginable. Mais vous voyez des gens qui ont une bracha, mais de dingue. Mais des gens qui étaient là, ils ont étudié jusqu'à 40 ans à Poniovitch, etc. Ils vont commencer à travailler dans le diamant, bam, ils commencent à exploser, etc. Bon, d'autres, ça va pas toujours, c'est pareil, on l'a défini. Je dis, il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui s'en sortent pas. Mais au final, même chez vous. Donc n'allez pas genre donner des leçons aux Haredim. Il y a les pauvres, ils sont que chez Haredim, où il y a tout va bien. Alors, et les manifestations qui ont eu lieu il y a un an, deux ans, contre les prix qui montent, les trucs. Il n'y avait que des chélonim de Tel Aviv qui étaient dans les manifs. Les Haredim, ils ont pas de problème. Les Haredim, ils ont des maisons. Ils ont la plupart des Haredim, ils ont réussi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Pardon? Ils ont des enfants. Non, mais c'est pas que le sujet. Non, s'il y avait un vrai Inyan, il y a FR. Non, après, à quel moment sur des sujets importants?
Pas sur le prix du cottage.
Mais voilà, pas sur le prix du cottage, ça. Ça veut pas dire que. Mais ça va quoi. HM envoie la parnassa aux gens. Je vois des miracles. Moi, je dis par exemple, des fois, j'ai prêté de l'argent à quelques personnes. D'accord? Dans ma vie. Et je prenais de l'argent à des gens de Nebrat, toujours rendu à temps. en minute. Et quand il y a un moment, il veut me rendre après le coucher du soleil, il m'appelle, Jérémy, regarde, truc, et dis-moi vraiment si ça te dérange. Bien, ben, les d'autres, ils travaillent, ils sont là, ils ont leur business, ils ont genre 15 salariés, etc. Ils m'avaient demandé de l'argent à moi, c'est un truc. Ils m'emboursent pas. Ils m'emboursent pas. Ouais, mais bon, excuse-moi, hein, je m'en surpasse, hein, on en reparle en 3 mois. Mais qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux?
C'est pas sa parole.
C'est même pas une question de parole. C'est un problème de finalement, il s'en sort moins. Il arrive, il a un problème. Il y a une histoire comme ça magnifique. Est-ce que j'ai lu cette histoire? Ah, je crois que c'est dans le Contrast, dans le dernier Contrast, il y a cette histoire-là. Il y a une histoire magnifique qui dit que un jour il y avait un père, il y avait un mariage qui allait être organisé et le père et le beau-père ont fait une négociation qu'ils allaient partager à 50-50 l'ensemble des dépenses. Et à un moment, les dépenses se sont, donc déjà c'était énorme, et à un moment les dépenses se sont augmentées. Et là, l'avraire, il va voir, donc il y avait un avraire et un quelqu'un qui travaille en face. L'avraire, il dit, regarde, moi je suis avraire, je peux pas maintenant, il faut que tu finances toi. Il lui dit non, on peut pas, on a dit 50-50 surtout, c'est comme ça, moi je peux pas, etc. Moi aussi j'ai des dettes, c'est comme ça. Ils ont été voir Rav Steinman. Qu'est-ce qu'a répondu Rav Steinman? Il a dit, c'est l'avraire qui prend tout en charge. Il a dit, le Baal Bayit, il va, ça barna ça, il va se prendre la tête, il va essayer, etc. L'avraire, il a une bracha. L'histoire raconte, ça raconte là-bas, que l'avraire, après quelques années, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais plus de dettes, il avait plus de 500 000 shekels de dettes, j'ai réussi à rembourser mes dettes, et le Mechouda, il a été encore plus enfoncé dans les dettes. Oui, c'est ce genre de choses. Vous vous dites, mais ça, c'est des histoires. Moi, genre, j'ai été voir Steinman, je lui ai dit, à Kama, ça arrive l'idog, je vais aller dire, combien je dois maintenant me casser la tête pour mes... Comment dire, à m'inquiéter pour mes enfants.
M'inquiéter
dans le sens pour la Parnassa. Parnassa. Ah. Alors quoi, parce que vous savez, il y a tout le truc, on doit financer la maison, on doit financer le truc, etc. Là. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Enfin, les gens pensent qu'il allait me dire tout sauf ça. Il m'a dit, regarde, fais comme Resh Lakish. Resh Lakish, j'ai 2 cartons de légumes. Et quand on est venu le voir, on lui a dit, il a dit, tout à son mes enfants, s'ils sont tzadikim, ils auront ce qu'il faut, s'ils sont Rechaim, ils vont tout perdre. Il m'a répondu comme ça. Je dis, vraiment? Il me dit, comme ça. Hashemman. On est là, des fois, on a des fois le là, il me parle, c'est de première main. Hashemman me l'a dit comme ça.
Les gens, ils font pas comme ça, ils achètent des appartements pour
leurs enfants, tout ça. Quand ils peuvent. Aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. C'est un problème. Ça fait partie de l'épreuve, d'accord? Je dis pas que c'est facile, d'accord? Mais quand ils peuvent. Moi, il y a un moment, j'avais été voir Rav Steinman une autre fois. J'ai dit, voilà, j'ai la possibilité d'acheter un appartement. Il me dit, j'ai misva l'itraten et la dim. Imsa, t'as l'itraten au diotarto. Ah, mais c'est tout, c'est pas l'idog, daaga. Finalement, daaga, évidemment, ça doit même pas faire partie de notre vocabulaire. S'inquiéter. Prévoyant, ok. Déaga. Et c'est le genre de choses. Et on est dans un monde où, en fait, et surtout en France, on est en permanence en train de nous angoisser la tête. On nous angoisse tout. Les chiffres du chômage, et son truc, et la catastrophe, et les conséquences macroéconomiques de je sais pas quoi et tout. Et quand on se rend compte, on voit les mecs qui sont en première classe de l'avion, ils sont en tongs, ils sont, quand on commence à leur parler, ils parlent 3 mots de français, etc. C'est HM qui leur a donné des trucs, vous avez de la chance. Et j'ai dit franchement. Hier, j'étais dans l'avion, je parle avec une personne. Il y a une femme qui s'est même parlé. Et après, elle a compris, comme des gens étaient venus me voir, elle a compris que j'ai un peu connu. Elle me disait, mais vous êtes qui, etc. J'ai un peu expliqué, etc. La femme, c'était une grande patronne mondiale d'une société de pharmaceutique. D'accord? Oh, patronne mondiale. Elle me parlait, mais franchement, elle me parlait, mais elle disait des trucs d'une bêtise. Oh, mais vraiment, j'avais aucune chorma. Vous voyez, aucune chorma dans ce qu'elle me disait. Je me dis, c'est pas possible, comment elle a réussi ça là? Mais vraiment! Et là.
HM qui envoie.
Là, il y a HM en bas. Pardon? Non, mais c'est toujours. Oui, je suis la responsable mondiale. Mais c'est ça, et je vois ça tout le temps. Je vois des gens, il y a des gens avec qui ont énormément de bracha en parnassa. On dit, de toute façon, la Gemara, elle le dit. La parnassa, le hachir, il a une épreuve aussi complexe que le hani. Vous savez, peu haché, elle va dire, j'ai pas le temps. Non, c'est pas ça, le haché, elle va dire, j'ai pas le temps de m'occuper de mon Hollywood. J'étais au Brésil avec une des plus grandes familles juives du Brésil. J'ai rencontré un dépice. Enfin, je peux pas dire le nom. D'accord, un dépice. Mais il est là, il fait son business, c'est un grand banquier. Vous allez vous rapprocher de qui je peux être. Et je commence à lui parler, je lui dis, tu étudies ? À peine je lis les mots. Je fais, mais attends, tu es un des plus grands donateurs juifs au monde. Tu sais pas étudier ? Ouais, mais je sais pas, truc, ça m'intéresse pas trop. Je fais, mais tu t'as déjà ? Tu sais à quoi ressemble une page de main ? Non. Là, il a eu son épreuve de riche. Bon, alors maintenant, c'est un grand, grand bal recède. Alors, HM, il décide. On n'est pas là à juger les gens. Et c'est important pour nous de dire le riche, il a tout, tout, il a tout. Le passage, l'épreuve, il la passe pas. L'épreuve, il la passe pas. D'ailleurs, le Annie, il est là, il peut se dire, ah oui, mais parce que je suis Annie, je vais pas devoir travailler comme un chien, je vais faire un truc, et je vais devoir travailler Shabbat, etc. Là. Ah, c'est une autre épreuve, mais tout le monde a des épreuves. Tout est dans le truc. Et d'ailleurs, dans notre vie, très très souvent, il y a des moments où on a rien, des moments où on peut avoir, des moments où on a rien. Et à chaque fois, les épreuves vont changer.
Moi j'ai que des Shkalim, vous avez
c'est bien.
C'est pas grave, je donne lui ce que tu veux.
Mets tombé. C'est pas un signe ça?
C'est bon, je cherche à faire un grand
bâton. On a là qui voudrait avoir une machine à l'aéroport, une machine qui fait la monnaie. Juste pour avoir des petites pièces de Dakar.
C'est un nouveau business.
Non, on va prendre quelque chose pour ça. Mais voilà. Il dit c'est. Voilà, on a en permanence des preuves dans tout. Donc,
Bah, c'est accommodant, c'est accommodant.
Ah, ça donne du plaisir.
Ça, c'est un peu.